Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes, il est midi sur Souvenir FM. On remercie David pour la programmation musicale. David, on te retrouve dans une heure pour la suite de la journée en musique. Mais pour l'heure, il est midi et à midi, c'est l'heure de l'invité du 12-13. L'émission qui donne la parole à ceux qui font bouger notre territoire, ceux qui agissent et qui s'engagent dans le tissu associatif local. Nous recevons souvent des associations, des organisateurs de festivals. Nous avons même reçu récemment un aventurier en béquille qui fait des expéditions dans le Grand Nord. Et bien aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans notre émission un historien écrivain qui a fait de notre cher territoire landais son objet d'étude favori. Pour qui les Landes n'ont plus aucun secret. Bonjour Jean-Jacques Taillantou, merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais bonjour, c'est avec plaisir que je suis là.
Alors nous avons une heure devant nous pour une plongée dans l'histoire des Landes, mais avant cela, c'est l'heure de retrouver les informations nationales et internationales. On se retrouve pour lancer la discussion dans deux petites minutes, à tout de suite. Et c'est parti, chers auditeurs, pour l'invité du 12-13 sur Souvenir FM pour parler histoire aujourd'hui avec Jean-Jacques Taillantou. Alors Jean-Jacques, la coutume sur Souvenir FM est de demander en préambule de l'émission aux invités de se présenter et de nous parler de leur parcours de vie. Alors avant de nous éclairer sur l'histoire des Landes, est-ce que pouvez-vous nous raconter un petit peu votre histoire personnelle?
Alors, mon histoire personnelle, elle naît, en tout cas celle qui est liée à l'histoire, elle naît à ma petite enfance. Et tous les soirs, après l'école, j'avais 6-7 ans, j'allais la rejoindre et je regardais avec plaisir ce qu'on appelait des images rossignoles, c'est-à-dire des grandes images illustrées racontant l'histoire de France. Et je restais, je me rappelle, des minutes à regarder ça, à commenter. Puis je me suis intéressé à l'histoire en général. Et comme ma grand-mère était passionnée de son village lithémique, elle m'a appris à regarder, à observer ce territoire-là. Et puis plus tard, que je suis devenu adolescent et adulte, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire locale, sans avoir de formation particulière. Mais bon, la vie a fait que, à 35 ans, j'ai voulu devenir professeur d'histoire-géographie. Donc j'ai fait des études d'historien. Et ça, j'en ai fait mon métier. Mais à côté, j'ai continué à travailler, à chercher. C'était plutôt une passion, un plaisir. M'intéresser à l'histoire de mon village, puis élargir l'ensemble du département et voilà, en faire une passion, mais qui est totalement indépendante de mon métier d'enseignant.
Et oui, on vous doit donc beaucoup d'ouvrages sur les Landes. Parmi ceux-là, il y a la petite histoire des Landes, la petite histoire de Dax, l'histoire du Marensin. Vous avez aussi fait un ouvrage sur l'habitat landais, les maisons landaises, je crois. Le dénominateur commun de votre travail, de votre passion, on l'entend bien, c'est ce pays des Landes, ce pays landais. Vous dites dans certains de vos ouvrages que les Landes sont un des territoires français, si ce n'est le territoire français qui, dans l'histoire moderne, alors si on entend l'histoire moderne, en gros, depuis l'Antiquité ou Moyen-Âge, qui a le plus évolué, d'un point de vue géographique ou au niveau de son peuplement, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui a fait la spécificité de ces évolutions?
Alors, la spécificité, enfin, comme vous le dites très bien, c'est certainement, c'est pas du chauvinisme landais, c'est certainement le département qui a eu le plus de mutations, en tout cas paysagères, et toutes ces mutations sont imposées par l'homme, pour des raisons économiques, sociales, ainsi de suite. Mais c'est vrai que dans un temps relativement court, alors c'est vrai qu'on peut remonter à l'époque préhistorique, alors ça c'est des découvertes récentes qui démontrent que, par exemple, l'endroit où on parle de l'ancienne lande gagnée par la forêt, il y a eu auparavant, dans cette lande, il y a déjà eu une forêt, on va dire, métissée, qui était du pin maritime qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi de feuillus, très variés. Donc voilà, il y a eu cette évolution-là. Mais si on prend simplement les 200 dernières années, par rapport à aujourd'hui, il y a eu des mutations paysagères assez extraordinaires. Bon, bien sûr, la partie de la lande qui a été conquise par le pin, ça c'est classique, tout le monde le connaît. Mais vous avez une région comme la Chalosse, qui dans les années 1950, c'est-à-dire au XXe siècle, a complètement changé de paysage, a changé de... Tout le monde agricole a complètement été bouleversé. On est passé d'un territoire viticole, pratiquement, à un territoire maïs-foie gras.
Voilà. Récemment, là.
Oui, dans les années 1950-60. Et la côte, c'est un peu le même phénomène plus ancien, mais pareil, ça sera une mutation exceptionnelle qui va créer un paysage qui aujourd'hui est à l'image d'être un territoire naturel, mais totalement maîtrisé par l'homme, et pourtant qui a fait la force de notre département, en particulier sur le plan touristique et son image.
Oui, par rapport notamment à la côte. Mais c'est vrai qu'on a, pour les non-initiés, ou même certaines personnes du territoire, qui ne savent pas forcément la forêt, c'est la main de l'homme, etc. Mais on a surtout une image, d'un point de vue paysager ou géographique, plutôt monolithique avec cette vaste forêt. Mais elle est quand même, le département des Landes est décomposé en, en de nombreux pays assez diversifiés. Alors on a le Marensin, la Marraine, on a la Chalosse, vous l'avez évoqué, la Grande Lande, etc. Il y a quand même une diversité de terroirs assez importants. Vous pouvez peut-être d'ailleurs nous expliquer un petit peu les spécificités de chacun, qu'on ait une photographie géographique, je dirais, du département.
Oui, c'est un peu la faiblesse de l'image qu'ont les Landes aujourd'hui. C'est-à-dire, oui. Comme vous le dites... Pour quelqu'un extérieur au département, souvent, même sans aller trop loin, vous demandez à un Béarnais, à un Girondin, bon, c'est un peu différent parce qu'il connaît la forêt, mais, ou un Basque, il va résumer le territoire des Landes à la grande forêt de pins que l'on franchit ou que l'on traverse quand on vient de Bordeaux jusqu'à Bayonne. Mais en fait, c'est que dans l'espace, ça occupe un territoire important, oui. Mais il y a une multitude, comme vous dites, de petits pays. Même si on prend la côte, le Born ne ressemble pas au Seignanx. Et quand vous allez même en Chalosse, quand vous êtes vers Peyrorade, le pays d'Orthe, ce n'est pas le même paysage que quand vous êtes autour de Gaujac ou encore moins si vous êtes dans l'Armagnac donc, il y a ou dans le Marsan. Donc avec des paysages, des reliefs différents, donc des cultures différentes, des maisons complètement différentes.
Des habitats.
L'habitat est complètement différent, même sur la côte. On a l'impression que c'est toujours le même type de maison. Mais les maisons du Born ne sont pas celles du Marensin. Quand vous êtes au bord de l'Adour, vous avez des maisons singulières par rapport à celles qu'on va trouver, même à Dax ou à Mont-de-Marsan.
Alors, on a quand même, dans les Landes, un habitat alors, diversifié, certes, mais l'Érial est quelque chose... alors, qui vient d'où, cet habitat de...
L'Érial, on va dire qu'il est plutôt quand même spécifique de la partie forestière.
D'accord.
C'est un espace très particulier, c'est une sorte, alors si je viens de donner une mauvaise définition, mais aujourd'hui quand on va en Érial, on a l'impression que c'est une sorte de clairière plantée d'arbres différents, ce qui est vrai, avec des maisons. On a l'impression que, voilà, que c'est une sorte de clairière, et alors que dans un temps beaucoup plus lointain, c'était presque, alors je sais que les archéologues ne vont pas être d'accord quand je dis ça, mais pour expliquer, ce fut à un moment donné une sorte d'oasis dans la lande, c'est-à-dire c'était le seul endroit habité où il y avait... une diversité d'arbres et autour de l'Onde, on avait quelques paires maritimes qui existaient déjà, hein, faut pas les oublier.
Très bien. Et alors, en parlant des pins maritimes, justement, donc la forêt de pins qui est caractéristique de la majeure partie du territoire aujourd'hui, elle a été décidée à l'époque napoléonienne, sous décret impérial, si je ne m'abuse, ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi l'administration napoléonienne, a-t-elle décidé de transformer ce paysage, grosso modo, de landes marécageuses en vaste forêt de pins? Finalement, quels étaient les objectifs de cette manœuvre? Et quelles en ont été aussi les conséquences à la fois sur le paysage, mais sur les modes de vie?
Alors, je pense qu'il faut juste simplement dire qu'avant, le pin maritime est présent sur le territoire des Landes depuis très, très, très longtemps. C'est-à-dire que Napoléon III n'a pas imposé une plante étrangère, il a utilisé une plante endémique, c'est-à-dire qui était là depuis très longtemps. La preuve, il donne un exemple simple. Depuis une quarantaine d'années, dans l'étang de Sanguinet, un peu par hasard, au départ, des plongeurs ont découvert au fond du lac des pirogues.
Oui.
Des pirogues qui auraient aujourd'hui plus de 3000 ans. Et ces pirogues étaient monoxyles, c'est-à-dire creusées dans un seul tronc d'arbre. Cet arbre, c'était le pin maritime. C'est-à-dire qu'il y a plus de 3000 ans au minimum,
le pin était là,
et surtout sur la côte. C'est pour ça qu'il y a eu toujours des pins maritimes, alors pas en front de mer, mais à l'équivalent de cette guirlande de villages qu'il y a le long de la côte, il y avait toujours des forêts. Donc cette forêt, elle existe. Et Napoléon III, qu'est-ce qu'il fait Et il a eu l'opportunité de traverser la Lande quand il venait à la Biarritz avec son épouse.
L'impératrice Eugénie. Ouais.
Donc il s'est rendu compte qu'il y avait un territoire qui avait l'air, qui a eu toujours l'image d'être pauvre. Un désert, effectivement. Alors marécageux plus ou moins. En fait, là aussi, on a fantasmé l'histoire de marécage. Il y avait des zones humides avec des lagunes, mais il ne faut pas fantasmer un marécage comme on peut le voir dans d'autres régions de France ou la Sologne, par exemple. Mais donc, il s'est rendu compte. Lui, il a pensé qu'il fallait donc la développer et en faire une zone économique beaucoup plus importante. Donc, en s'appuyant sur les ingénieurs des poses et chaussées, il va décider qu'il faudra mettre en valeur ces terres. C'était le terme officiel.
Mise en valeur.
Sauf que les historiens des années 80-90 qui ont beaucoup travaillé là-dessus se sont rendus compte que les Landais de la Lande, on les présentait toujours comme des gens qui étaient en très grande difficulté. Bien sûr, leur situation n'était pas glorieuse au niveau financier, mais il y avait une vie, il y avait une économie qui était basée sur l'élevage.
Sur l'agro-pastoralisme, c'est ça ?
Exactement, sur l'agro-pastoralisme, exactement. Plus d'autres activités qui liées à ça, mais presque pré-industriel. Il y avait des verreries dans la Grande Lande. Bon, ce choix a été fait pour des raisons économiques. Et donc, cette lande a été conquise par le père en 30-40 ans, à la fin du 19e siècle. Et ça a eu des conséquences... Bien sûr, comme vous le dites, paysagère, ça a complètement transformé ce territoire-là, qui est devenu une immense forêt d'un seul type de plante, donc le pin maritime. Mais ça a aussi transformé la société de cette région-là, puisque la plupart des gens qui étaient dans la lande travailler autour effectivement du mouton. Et le mouton, pourquoi il était là? C'était simplement pour avoir un engrais, pour pouvoir faire vivre les habitants de cette région-là et amender les terres. Donc ça veut dire qu'il y a un métier qui a disparu totalement, plus tous les pays, les métiers annexes, c'est celui de berger. Et à partir de où la forêt conquiert la lande, le berger disparaît.
Et le résinier arrive.
Exactement. Et c'est le résinier qui va prendre place et qui va être le métier essentiel, plus tous les métiers annexes. Il faut fabriquer les pots de résine, il faut entretenir les attelages, il y a beaucoup
des ferronniers. Il faut transformer la résine pure, etc.
Transformer la résine pure sur place. Donc c'est une transformation très très rapide dans le temps.
Et donc une histoire presque contemporaine des Landes, immensément liée à cette plantation de pins. On est déjà à l'heure de notre première pause, on se laisse en musique, Jean-Jacques, pour se retrouver juste après pour continuer à discuter de cette riche histoire des Landes. À tout de suite.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13.
Et c'est parti pour la deuxième tranche de notre émission L'invité du 12-13, en parlant histoire aujourd'hui en compagnie de Jean-Jacques Taillantou. Jean-Jacques Taillantou, à qui on doit un certain nombre d'ouvrages d'histoire sur le territoire des Landes. J'invite tout un chacun d'ailleurs à être curieux de ces choses-là. Ça vous en apprendra beaucoup sur l'histoire de ce territoire qui est bien plus complexe qu'il en a l'air. On finissait notre première partie, Jean-Jacques, sur la présence du pin qui n'a pas toujours été là et qui a modifié considérablement les us et coutumes finalement du pays ici aux alentours à la fin du XVIIIe siècle. La forêt, la plantation de cette forêt, elle a aussi participer à la modification du littoral. Hein. L'histoire des Landes et de son littoral, elle est aussi plus complexe qu'elle en a l'air. La grande dune qui va de la pointe des Graves jusqu'à l'embouchure de l'Adour n'a pas forcément toujours eu cette silhouette-là. Et bon, elle est étroitement liée à l'histoire de la forêt, hein, finalement.
Ah oui, tout à fait. Alors c'est légèrement antérieur avant la conquête de la Lande, mais c'est un élément important de l'histoire des paysages et de l'histoire des Landes et de ce qu'elle est aujourd'hui. Et pour, il faut imaginer, c'est difficile aujourd'hui, quand nous allons à la plage, nous traversons souvent un système de dunes et on arrive en bord de mer à une dernière dune qui fait presque 200 km de long et qui nous permet d'aller accéder à l'océan. Bon, mais cette dune littorale, la dernière, c'est-à-dire celle qui est en bord d'océan, il faut, ça je pense que tout le monde ne le sait pas ou ne s'en rend pas compte aujourd'hui, elle est totalement artificielle. C'est l'homme qui l'a créée dans les années 1820-1850. Il faut imaginer, sans les moyens actuels, c'est-à-dire tout a été fait à la mer, mais surtout avec l'intelligence des hommes et des ingénieurs de l'époque qui ont su utiliser la nature aussi pour faire grandir cette dune. Bon, ce serait un autre sujet, mais donc elle est entièrement artificielle. Et pourquoi on fait cette dune dans ces années-là? Parce qu'on se rend compte que les dunes qui sont à l'arrière de cette dune qui est en train de construire se déplacent depuis des siècles à l'intérieur des terres. Ce qui explique, quand vous allez sur la côte andaise, si on est objectif, il n'y a aucun village en bord de mer. Les villages, c'est-à-dire là où il y a l'église ancienne, elles sont à 7-8 km quand vous êtes à Mimizan, à Litémix, à Saint-Girons, ainsi de suite. L'exception, c'est Cabreton et Vieux-Boucau parce qu'il y a eu l'embouchure de la Dour. C'est tout. Et encore, si on est objectif, le village n'est pas en bord de mer. Il est certes légèrement en retrait.
Oui.
Donc c'est dunes qui avançaient, il fallait les stabiliser parce qu'elles envahissaient et menaçaient ces villages, et elles menaçaient surtout les cours d'eau, les courants, qui étaient obstrués régulièrement par ces sables, et qui provoquaient des inondations, et qui dégradaient les champs qui étaient autour, les prairies, ainsi de suite. Donc la seule solution, c'était stabiliser, faire une dune artificielle pour freiner les sables.
Pour éviter que les sables des plages, en fait, ne balayent l'arrière-pays immédiat. Est-ce qu'il est vrai, Jean-Jacques, que certains villages ont eu à se déplacer un peu plus vers l'arrière?
Alors ça c'est sûr, c'est pas une légende, parce qu'on a trouvé les emplacements, que ce soit de la carte ou soit sur le plan archéologique, ou soit par des témoignages des contemporains. Vous avez, c'est le cas venez comme exemple, Contis, Mimizan, Papa Mimizan, Litmix, Saint-Michel-Escalius, enfin vous en avez 5 ou 6 au minimum sur cette partie-là, où on sait que les églises sont déplacées face à ces des sables. Alors on le sait pourquoi, parce que les gens ont témoigné, et témoigné de choses très simples et très matérielles, c'est qu'ils déplaçaient l'église carrément, comme elle était faite en grande partie, en tout cas à la base, de pierre, une pierre qui est typique de la Lande, qui s'appelle l'Alios. Mais ces églises ont été déplacées pour les installer à l'endroit où vous les avez aujourd'hui.
Donc, d'accord. Et alors vous parliez aussi tout à l'heure que Cabreton était une forme d'exception, parce qu'elle est très proche de cette dune de l'époque, de la plage en tout cas, vous évoquiez l'embouchure de la Dour, ouais, qui, avant d'être à Boucaux, était à Vieux-Boucaux, n'est-ce pas ?
Exactement. Enfin, elle a été, voilà, c'est une histoire, ça aussi, c'est
oui,
un changement extraordinaire des paysages. C'est-à-dire que la Dour, là, c'est pareil, il faut essayer
d'imaginer.
Et ben, vous repartez, il faut vous imaginer que vous êtes à Bayonne,
oui,
que vous allez vers l'océan, et puis à un moment donné, par exemple, aujourd'hui, vous avez la voie ferrée qui remonte vers le nord.
Oui.
À l'emplacement de la voie ferrée, ben, entre le XIIe siècle et 1578, alors je vous dirai rapidement pourquoi tout à l'heure, si on a le temps,
oui,
la Dour s'est
remonté
vers le nord, longer la côte pour trouver une ouverture vers l'océan, et la celle qui est reconnue comme étant la première dans la partie historique, parce qu'il y a très peu d'informations à part avant le XIIe siècle, elle s'est jetée à ce que nous, on appelle aujourd'hui Cabreton. Donc, Cabreton va naître en grande partie de cette embouchure qui s'ouvre sur l'océan à cette époque-là, on va dire au XIIIe siècle, et puis un peu plus tard, alors une date incertaine, mais on va dire début XVe siècle, pour simplifier, mais cette embouchure de Cabreton va être obstruée par les sables, et donc la nature fait bien les choses, il faut bien que l'océan déborde quelque part, mais il continue son chemin vers le nord, et il va arriver dans un endroit que nous on appelle aujourd'hui Vieux-Boucaux, mais qui était en fait un quartier de Messanges.
D'accord.
Et ce quartier de Messanges va devenir indépendant, il va devenir une paroisse, plus tard une commune, et les habitants de la région vont l'appeler Boucaux, en gascon, ça veut dire l'embouchure. Donc aujourd'hui c'est le Vieux-Boucaux, à partir de 1578, où l'homme décide de le ramener, enfin, ou l'amener à l'endroit où elle est aujourd'hui.
Alors, c'est une lutte de territoire entre Bayonnais et Landais, c'est ça ? Alors, c'est les Bayonnais qui ont fait un petit peu de lobbying, on dirait aujourd'hui, mais non, qui ont décidé de s'approprier finalement le Boucaux, l'embouchure qui remontait vers le nord. Pourquoi Bayonne a soutenu ce projet ?
Alors, c'était très, très important pour eux, parce qu'en fait, le port de Bayonne vivait de cette embouchure de Cabreton et Vieux-Boucaux. Sauf que, justement, le sujet qu'on a évoqué avant, c'est-à-dire l'avancée des sables. Les sables menaçaient cette Adour, étaient régulièrement envahis par les oui, sables, donc avec des capacités de navigation des bateaux de moins en moins performants. Et tout simplement, au XIVe, XVe siècle, le port de Bayonne est menacé. Ils savent qu'ils risquent de mourir et que Cabreton et plus tard Vieux-Boucaux pourraient prendre leur place. Je schématise un peu, mais
oui,
c'est
oui,
ça.
Okay. Donc, c'est
donc ils décident, la seule solution pour eux, ils demandent l'aide d'un ingénieur compétent, la seule solution, mais c'est percer un canal de Bayonne jusqu'à l'océan, ce que vous avez aujourd'hui.
À partir de l'arrivée de la Nive, là, on a cette espèce d'énorme embouchure. Enfin, c'est un gros, ça doit être le deuxième d'Aquitaine après le.
Ah oui, comme fleuve, oui.
Après la Garonne, donc c'est intéressant effectivement de savoir que, comme la forêt, comme la dune, ce sont des choses qui ont l'air immuables, qui ont l'air là depuis la nuit des temps. Et puis en fait, c'est l'être humain, c'est l'homme, c'est les projets économiques, les luttes de pouvoir et d'influence entre certains territoires qui ont amené à façonner le territoire qui évolue encore aujourd'hui, mais peut-être dans des proportions moindres parce qu'on n'a pas les mêmes moyens de coercition notamment, enfin, ou de pouvoir faire les choses qu'à d'autres époques. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que la dune n'a pas toujours été là, n'a pas toujours été comme ça. La forêt n'a pas toujours été là, n'a pas toujours été comme ça, même s'il y a effectivement eu des pins. Et l'embouchure de la Dour, à une époque, était à Cabreton et non à Bayonne. Alors on a aussi, mais ça je pense qu'on se le réserve pour la reprise après la pause, parce que là ça va être tout de suite l'heure du flash info local de Jean-Philippe Dandurand. On se retrouve après pour discuter notamment de la lutte de préfecture entre Dax et Mont-de-Marsan. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, Jean-Jacques. Bon, en attendant, je vous laisse en compagnie de Jean-Philippe et du Flash Info local. On se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. Et nous voilà dans la troisième partie du 12-13 avec Jean-Jacques Taillantou aujourd'hui, où nous essayons en une heure de temps de défricher un maximum d'anecdotes sur l'histoire des Landes. On a parlé de la Dour, on a parlé également de la forêt, de la dune, des modifications de peuplement, etc. Depuis mon arrivée dans le coin, pour faire de la radio, Jean-Jacques, j'ai entendu dire, parce que vous savez qu'on a une partie les bureaux sont à Dax, hein, à Souvenir FM, et je crois qu'il y a une rivalité entre Dax et Mont-de-Marsan, comme il y a beaucoup de rivalités en France, hein, Bordeaux-Toulouse, Paris-Marseille, Capitale-Province, mais je crois qu'entre Dax et Mont-de-Marsan, mais vous allez nous en dire plus, il y a une histoire de vol de préfecture, hein, c'est ça, ou d'hégémonie sur la préfecture à l'époque révolutionnaire de la Révolution.
Oui, peut-être, effectivement, cette rivalité vient peut-être de là, ou peut-être d'avant. Or, c'est vrai que c'était deux villes qui étaient va dire, les villes principales des Landes à la fin du XVIIIe siècle, même si sur le plan, je pense, économique et stratégique, Dax était plus imposante pour plusieurs raisons, par sa géographie, par son port, par la présence de forces militaires, oui, sur un grand axe de communication. Et Mont-de-Marsan était un petit peu en retrait à ce niveau-là. Et effectivement, quand en 1790, les départements sont créés dans les mois qui suivent la Révolution, il faut choisir, en gros, entre Dax et Mont-de-Marsan. Donc il va y avoir des rivalités, on va dire, économiques entre les deux. Il va y avoir des discussions entre les nouveaux députés qui... Enfin, les députés qui arrivent pour la première fois.
Et oui.
C'est la première assemblée, on va dire.
Après la mort de Louis XVI, oui, bien sûr.
Et donc, il va y avoir des rivalités, des discussions pratiquement sans fin. On ne sait pas si on va choisir le nom du département. Au début, on l'appelle Landes et Chalosses. Bon, il y a beaucoup de tergiversations. Il faut bien décider. Sauf que la décision sera faite de manière un peu...
Précipitée.
Et surtout, ça, c'est presque officiel, mais les archives laissent entendre qu'un des députés montois avait pris une décision tout seul dans son coin et avait imposé que ce soit Mont-de-Marsan qui devienne... La future préfecture des Landes.
Donc ce n'est pas une légende.
Non, la légende, non. Après la rivalité, elle a perduré.
Fabulé.
Et puis le rugby, après, est arrivé plus tard.
Bien
et
sûr.
A fait qu'accentuer ces oppositions, on va dire, amicales quand même entre les deux cités landaises.
Merci pour ce petit éclairage. Alors, tous les ouvrages que vous avez écrits vous amènent à parcourir un petit peu le département pour parler un petit peu de votre science, de votre connaissance du territoire. Et le 13 juin prochain, vous êtes invité donc à Bénesmarem à faire une conférence sur l'un de vos ouvrages dont on n'a pas encore parlé, mais qui a trait au naufrage dans les Landes. Vous disiez hors antenne qu'une de vos spécialités, c'était aussi l'histoire de la côte, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette histoire des naufrages ? Vous avez fait une vaste enquête, je crois, sur cette question-là. Racontez-nous.
Oui, voilà, l'enquête au départ est presque anecdotique. C'est-à-dire, comme vous l'avez bien dit, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du littoral, qui est très diverse et très riche et qui est encore à faire, je pense. Donc quand je fais des recherches dans les archives ou dans la presse à partir du XIXe siècle ou dans les travaux d'autres historiens, je croisais régulièrement des exemples de naufrages. Et puis l'histoire des naufrages sur la côte, ça a toujours fait fantasmer. Enfin, j'ai toujours entendu, même enfant, des histoires de naufrages sur la côte. Voilà, ça m'a intéressé. Et puis chaque fois que je croisais une de ces informations-là, je l'ai notée. Je suis arrivé à avoir, au bout de quelques années, entre 250 et 300 naufrages inventoriés. Et c'est que la partie émergée, on peut dire, de ces naufrages. En tout cas, qu'on trouve dans les archives. Donc des faits justifiés et qui ont existé, pas de la légende. Et à partir de là, j'ai essayé de voir quelle était la part de légende et la part de réalité. Est-ce que les Landais étaient naufrageurs ? Est-ce qu'ils sacrifiaient les gens qui arrivaient à la côte ? Ainsi de suite. Voilà,
c'est l'intitulé de l'un de vos livres. Donc les Landais étaient-ils des naufrageurs ? Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de naufrageurs ?
Alors, normalement, un naufrageur, quelles que soient les côtes du monde, ça veut dire que des hommes ou des femmes attirent à la côte un bateau qui est déjà en difficulté. On ne va pas attirer un bateau en plein été alors que la mer est calme. Mais c'est souvent en période de tempête, souvent l'hiver, que sur beaucoup de côtes dans le monde, on utilisait une technique classique d'allumer des feux pour faire croire qu'ils n'étaient pas loin de la côte, qu'ils pouvaient se réfugier, qu'ils étaient près d'un port. Bon, ça existait.
Des genres de pirates terrestres, quoi.
Oui, voilà, c'est un petit peu ce principe-là.
Ou des piégeurs de bateaux. Est-ce que ça fonctionnait, cette technique ? Est-ce que les Landais la pratiquaient ? Parce que j'ai cru aussi comprendre, alors c'est pareil, c'est dans les légendes rurales ou urbaines, on peut dire, je ne sais pas, mais que c'était des pratiques qui étaient faites notamment par les Médocains en Gironde, mais ce n'est pas si évident que ça. En tout cas, bon, vous avez, j'imagine, un peu recherché
Oui, parce que j'ai fait les Landes, mais la Gironde aussi. Il faut regarder ce qui se passe à côté, c'était la même côte. En tout cas, dans les traces, dans les archives ou dans les documents que j'ai pu croiser, que d'autres historiens ont pu consulter, cette technique-là n'est pas utilisée. Alors attention, il faut être prudent, ça ne veut pas dire que les Landais et les Girondins étaient des cerfs. S'ils avaient pu l'utiliser, s'il y avait une raison d'être, ils l'auraient fait comme sur d'autres côtes françaises ou européennes ou mondiales. Il y avait une raison tout simplement géographique. Il faut bien penser que la côte, jusqu'au milieu du XIXe siècle, la côte landaise et girondine, elle est totalement nue. Il n'y a pas de village, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de village en front de mer, il n'y a pas de repères. Vous avez un système dunaire qui est chaotique à l'époque, il n'y a pas encore de littoral. Donc un bateau qui est à 200, 400, 500, 2 km de la côte, il ne voit qu'un tas de sable, en gros, j'exagère. Donc il n'y a pas de repères, il n'y a pas de phare, il n'y a pas de balise, rien n'est fait. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, on a une côte totalement vierge. Donc il n'y a aucune raison qu'un bateau, un bateau au 18e siècle, il sait qu'il est en difficulté, il sait qu'il est dans le golfe de Gascogne, mais il sait que normalement, s'il voit un feu, c'est pas normal. De toute façon, c'était pas le cas. Donc, personne n'habitait en bord de mer. Donc, pour allumer un feu, il fallait être présent dans des périodes très compliquées.
Oui, c'était déjà une mission pour aller jusqu'à la plage.
Exactement, c'était une mission. Donc, le bateau, il y a une autre raison tout simple aussi. Quand un bateau est en difficulté, même aujourd'hui dans le golfe de Gascogne, quand il se rend compte qu'il est en difficulté, ce sont des bateaux à voile. En fait, quand il se rend compte qu'il arrive près de la côte, de toute façon, il est pris au piège des bancs et pris au piège des vagues. Et c'est voilà. Donc les bateaux, ils vont arriver naturellement. En fait, ils arrivent naturellement à la côte. Les hommes n'ont pas eu besoin d'intervenir pour peut-être après les piller. Ça, on peut en parler un peu plus tard.
Voilà. Donc les 250 sur l'enquête que vous avez fait auprès de ces 250 naufrages, a priori, ce serait pas du fait du coup de naufrageurs. Mais alors. De quoi est-ce qu'ils échouaient ? Enfin, pourquoi ils échouaient finalement ?
Ils échouaient essentiellement pour des raisons climatiques, pris par les tempêtes. Après, j'ai fait une forme de statistique par rapport aux périodes auxquelles les bateaux étaient confrontés. Bon, l'immense majorité, c'était de novembre jusqu'à mars, c'est-à-dire la période la plus difficile, comme aujourd'hui. La période des tempêtes, la mer est beaucoup plus forte, les nuits sont beaucoup plus longues, donc encore plus de difficultés pour se repérer par rapport à la côte. Voilà, les raisons ne sont pas liés à la technique ou des marins. Parfois, c'est des fautes de marins, des erreurs de marins, mais ils n'ont pas les moyens techniques qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'hiver était et l'hiver et l'automne étaient vraiment les meilleures
périodes.
Les périodes les plus dramatiques pour eux. Comme quand aujourd'hui on fait le Vendée Globe Challenge, je ne sais pas si vous... Chaque fois, les bateaux ont des grandes difficultés dès qu'ils partent de France, avant de traverser
l'Atlantique. Oui, le golfe de Gascogne est terrible.
Est terrible. Donc voilà, la raison, elle est purement liée à ça.
Et d'où venaient les bateaux ? Est-ce que vous avez, du coup, dans les archives, pu voir l'origine de ces bateaux ? Et est-ce qu'on sait qu'ils étaient en transit ou est-ce que petit peu une finalité, le golfe de Gascogne, peut-être au Pays Basque ou jusqu'en Bretagne ?
Enfin, on pourrait avoir les mêmes choses qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des bateaux qui venaient de pays nordiques, de Royaume-Uni, d'Espagne, du Portugal. Enfin, en tout cas, toute la façade atlantique européenne était concernée. Donc, dans les bateaux, on a des bateaux de toutes ces nationalités-là.
Est-ce qu'on retrouve des épaves aujourd'hui dans certains endroits du littoral landais ?
Alors aujourd'hui, les épaves qu'on peut trouver, qu'on a trouvées, c'est des bateaux récents, c'est-à-dire des bateaux métalliques à partir de la fin 19e. Et on sait qu'au large de la côte landaise, il y en a plusieurs. Ils ont été inventoriés, identifiés, localisés, mais ils sont assez loin de la côte. Tous les autres, on ne peut trouver que, peut-être par hasard, quelques vestiges mais de matériaux de bateaux de cargaison en métallique ou en bronze ou en or, voilà, ça a pu arriver, mais c'est exceptionnel.
Très bien. Bon, mais alors si vous voulez en savoir plus sur cette histoire des naufrages dans les Landes et de la question posée si les Landais étaient des naufrageurs, on en a eu un petit bout de réponse, mais vous êtes évidemment les bienvenus à Bennesmarem. Alors vous pouvez rappeler la date et le lieu.
Le vendredi 13, je crois que c'est
le 3e de l'année. Non, le vendredi 13 juin,
c'est le vendredi 13,
donc, à Bennesmarem, à quel endroit
à la médiathèque, je crois que c'est à 18h.
Alors une de vos casquettes, Jean-Jacques, c'est aussi, alors vous avez dirigé pendant un temps la société Borda, je crois, on pourra en dire deux mots peut-être, mais surtout vous êtes aussi le président de l'association Mémoire en Marensin. Alors Mémoire en Marensin, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la vocation de cette association et ce pourquoi elle existe et ce qu'elle fait, j'imagine, pour la mémoire collective ?
Oui, en fait, elle est née il y a presque 36 ans maintenant, d'une idée de plusieurs passionnés d'histoire de cette région du Marensin. Il y avait deux raisons. Une, parce que le Marensin, il y avait eu peu de travaux qui avaient été faits. Donc plusieurs, on était jeunes à l'époque, on s'était fédérés pour essayer de lancer des idées là-dessus et de s'intéresser effectivement à la notion de mémoire. Et c'est pour ça qu'on appelait l'association Mémoire en Marensin, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait un pan d'histoire sociale, économique, culturelle, qui allait disparaître avec les générations qui avaient, à cette époque-là, qui avaient 70 ans, qui auraient 100 ans aujourd'hui. Et cette histoire-là, on n'allait pas la connaître, parce que malheureusement, une grande partie de l'histoire est effacée parce que ces mémoires-là ne sont pas étudiées, ne sont pas écoutées ou ne sont pas enregistrées. Et donc l'idée, c'était ça, pouvoir transmettre cette mémoire aux générations d'il y a 30 ans, aux générations d'aujourd'hui, et perdurer cette technique-là à travers le temps.
Et oui, parce que dans l'histoire, il y a quand même cette dimension orale contre écrit, l'importance de la transmission orale pour faire perdurer le récit historique, mais le danger aussi par l'oral de la colportation, d'informations historiques qui peuvent être parfois erronées, etc. Et donc c'était aussi pour ça que vous montez cette association.
Oui, voilà, il y a les deux points de vue, effectivement. Si on reprend l'exemple du naufrage, c'est locatif, c'est-à-dire que les gens de la région ont traduit de génération en génération ce phénomène-là. Alors peut-être qu'il existait à une époque très ancienne, mais en tout cas depuis le 16e, 17e siècle, c'est pratiquement pas possible. Donc ça, elle est restée, sauf qu'elle est devenue fausse, cette information-là. Voilà, c'est un exemple type. Mais après, ça c'est le côté, on va dire, négatif de la mémoire, mais le côté est largement positif, parce que tous ces hommes et ces femmes qui ont vécu dans cette région, même ceux qui vivent aujourd'hui, peuvent transmettre des informations que l'on...
Oui.
Voilà, jamais on ne pourra... garder, conserver et transmettre. Il y a tout un savoir et on s'est rendu compte par expérience au cours de ces 30 dernières années que souvent les habitants de la région pensaient que leur mode de vie, leur savoir n'en était pas.
Et oui.
Et il faut justement au contraire les valoriser parce qu'ils ont un savoir qu'il faut transmettre.
Et oui. Mais non, mais ça c'est très intéressant. C'est très intéressant, Jean-Jacques. On en reparle après la dernière pause qu'on fait sur Souvenir FM. On se retrouve juste après pour la conclusion de cette émission et pour parler de l'importance de la mémoire historique et de la transmission. À tout de suite.
Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de notre émission, l'invité du 12-13. Pour les auditeurs qui nous rejoignent ou qui n'ont pas forcément entendu le début de l'émission, nous sommes en compagnie de Jean-Jacques Taillantou, qui est professeur d'histoire à la retraite, spécialisé dans l'histoire des Landes et qui a produit tout un certain nombre de récits, à la fois pédagogiques et anecdotiques parfois, donc sur l'histoire des Landes. On avait conclu, Jean-Jacques, la dernière partie sur l'association que vous présidez, donc Mémoire en Marensin. Vous nous disiez l'importance qu'elle revêtait dans la transmission du savoir, des anecdotes, etc. Mais je crois qu'elle a aussi d'autres... je dirais corde à son arc, d'autres activités. Quel est l'agenda de votre association? Comment peut-on y adhérer? Et puis, qu'est-ce que vous y faites? Qui sont les gens qui gravitent autour de ça?
Alors, l'objectif au départ, et c'est toujours le même, c'était mettre en valeur le patrimoine du Marensin, mais dans le sens le plus large, c'est-à-dire pas simplement le travail de mémoire et de transmission de ce savoir des hommes et des femmes de la région. C'était vraiment... tout ce qui avait trait au Marensin, c'est-à-dire on peut avoir... Alors ceux qui font ce travail-là, c'est-à-dire ceux qui... Enfin, un travail, ces recherches-là, oui, sont tous des adhérents. Et c'était peut-être une des réussites de l'association, c'est qu'on a réussi à convaincre beaucoup d'hommes et de femmes à pas simplement transmettre à l'oral, mais d'écrire en même temps. Et donc on a fait, par exemple, une trace très importante. Et tous les ans, on publie un bulletin conséquent de presque 200 pages, en format A4, avec une vingtaine d'articles. Et ces articles-là touchent des domaines très variés. Ça peut être vraiment de l'histoire, mais ça peut être aussi lié aux sciences, à la botanique, à la climatologie, à la langue, au gascon, à la poésie, à la littérature. En fait, tous les thèmes, le seul point commun... c'est le Marensin.
Et alors le Marensin, géographiquement, rappelez-nous, on est là, est-ce que là, ici, à Tosse, aujourd'hui, dans notre studio, est-ce qu'on est en Marensin?
Non.
Pas sûr, non?
Non, là, vous êtes en Marraine.
Voilà.
Mais c'est pas très loin, c'est un pays côtier. Alors le Marensin, il commence au nord, au niveau de l'Itémix.
Oui.
Au sud, il s'arrête à Vieux-Boucau, compris.
Oui.
Et à l'intérieur, c'est Talé, c'est-à-dire à l'est de Castel. Ça fait une sorte de trapèze ou de triangle, voilà, entre le Born et la Marraine, justement.
Et donc le personnel, enfin les bénévoles de votre association vont de mairie en mairie, d'archive en archive, de discussion de comptoir en discussion de comptoir pour produire ces mémoires. Comment ça se passe?
Alors, on a à peu près, depuis 20 ans ou 25 ans, on a à peu près 300 adhérents. Oui. Donc ces 300 adhérents, comme en toute association, ils ont deux statuts. Il y en a certains qui sont, on va dire, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Ils apportent leur adhésion, c'est-à-dire 22 euros par an, donc ce n'est pas une somme extraordinaire, mais qui est indispensable à la vie de l'association, qui sont acteurs, c'est-à-dire acteurs parce qu'ils vont venir, ils vont participer aux réunions qu'on fait, aux conférences, aux visites qu'on peut organiser aussi. Et puis il y en a d'autres parmi eux qui s'engagent plus ou moins dans l'écriture, dans la recherche.
D'accord.
Mais aussi ça peut être un adhérent, il peut simplement être acteur aussi en portant des documents, une photographie, un article du journal qu'il a trouvé, une lettre écrite par ses grands-parents, je dis n'importe quoi,
pendant la Première Guerre mondiale. Une archive familiale.
Une archive familiale qui va alimenter tout ça. Et après, c'est l'adhérent lui-même qui propose à l'association un sujet. Après, il y a une sorte de comité de lecture qui va regarder. Mais en général, je crois qu'on n'a jamais eu de cas où on a éliminé un article, parce que c'est toujours s'est fait de manière très pertinente et avec des hommes et des femmes d'horizons complètement différents. On n'a pas besoin d'avoir fait des études universitaires pointues pour pouvoir écrire dans le bulletin. Le savoir-faire de quelqu'un qui se croit modeste va être aussi performant qu'un autre puisqu'il connaît ce domaine-là, son domaine de prédilection.
Et alors, vos contenus sont en ligne ou rassemblés sur votre site internet, accessibles depuis
alors,
votre site internet?
Il y a le site internet a pour but simplement d'annoncer, par exemple, le sommaire du bulletin, une manifestation, ça veut dire, ça peut être une conférence, ça peut être aussi ce que l'on fait depuis maintenant plus de 30 ans, on fait des démonstrations de gemmage.
Ah oui.
Sur l'ITMX et Léon. Donc, au départ, c'était pour...
Pour annoncer l'agenda, finalement?
Oui, le site. Voilà,
mais
je faisais une petite parenthèse, démonstration de gemmage. On était un petit peu à l'époque les pionniers, parce que maintenant, beaucoup de villages, d'associations le font, et tant mieux, pour faire connaître. Au départ, c'était pour faire connaître aux gens qui arrivent dans la région, aux touristes, mais c'était aussi pour les locaux. Pareil, c'était l'idée de transmettre. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu d'habitants de la côte qui a vu vraiment un gemmeur pratiquer son métier.
Le gemmage, d'ailleurs, dans quelques semaines, quelques mois, vous aurez la chance de pouvoir écouter quelques chroniques sur Souvenir FM, dont une qui vous exposera assez rapidement, 2 minutes, 2 minutes 30, eh bien, la technique de gemmage et son histoire. Jean-Jacques, on arrive à la fin de notre échange. Alors, je tenais à vous remercier pour la richesse de cet échange qu'on a pu avoir ensemble. Et je vous remercie pour ce que vous faites aussi pour le territoire, parce que vous en êtes une mémoire active et vous permettez aux gens de savoir où ils habitent, ce qui a été fait, et d'avoir conscience aussi qu'ils sont une partie de l'histoire en marche. Hein, voilà.
Ça fait.
Et donc félicitations aussi pour ce que vous faites dans le cadre de votre association.
Merci beaucoup pour votre
accueil. Merci d'avoir répondu à l'appel. Je vous laisse en compagnie de David qui va assurer la programmation musicale pour l'après-midi, et on se retrouve pour de nouvelles aventures dans l'invité du 12-13 prochainement. Adi Schatz.